Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bienvenue chez Alors c'est pour bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé. Ici, on parle PMA, insémination, FIV, attente, médecine douce, alternative, et on en parle pour les couples hétéro et homo, ou encore maman solo. Chaque mercredi, j'interviewe ainsi une personne qui passe ou est passée par là, et ensemble nous créons une communauté bienveillante qui nous aide à libérer la parole autour de ces problématiques. Moi, c'est Anne Fleur, j'habite aux États-Unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la campagne normande et partons à la rencontre de la douce Julie. Après 2 ans d'essais bébés, sans le résultat escompté, Julie passe plusieurs examens et découvre ainsi que l'une de ses trompes est pincée. Elle se lance alors dans un parcours de PMA avec son mari Charles. Après une FIV au protocole expérimental, la voilà enceinte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Julie nous raconte son histoire et se livre à mon micro sur son parcours de PMA, mais aussi sur sa rencontre avec son petit Léo et sur cette épreuve terrible qu'elle et son mari ont traversée, la mort inattendue du nourrisson. Si aucun parent ne devrait jamais avoir à vivre un tel moment, Julie et Charles se battent aujourd'hui pour que cela n'arrive plus jamais et mènent un combat ô combien précieux pour la prévention des méthodes du coucher en toute sécurité. Elle nous raconte aussi la pause imposée par la PMA pour agrandir sa famille et la suite, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Sans plus attendre, voici ma rencontre avec Julie. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté mon invitation. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ?
Alors, je te parle de ma campagne en Normandie, en France.
Oh, génial, ça fait rêver, je suis née en Normandie.
Très bien, nous avons des points communs et il fait très beau.
Ah ouais, bah ici aussi, mais il fait très froid. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc.
Eh bien, donc moi je suis Julie, j'ai 32 ans, donc je suis originaire de Normandie et j'habite en Normandie depuis 1 an et demi à peu près. J'étais en région parisienne avant, donc pour le travail, j'étais responsable régionale pour une marque de prêt-à-porter. Et en fait, que j'ai quitté il y a 1 an à peu près pour me reconvertir en accompagnante périnatale. Donc j'ai déjà fait une formation en octobre dernier et je commence une autre de 1 an en septembre prochain.
Ah, génial, ok, super. Ouais. Bah écoute, on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Okay. Avant donc de passer à tout ça, on va parler un peu de ton parcours justement. On parle alors c'est pour bientôt. L'objectif c'est vraiment de libérer la parole sur la difficulté parfois en fait de devenir à devenir maman. Est-ce que tu peux me parler en fait un petit peu de ce projet? Avec qui est-ce que tu t'es lancée dans ce projet et voilà nous mettre un petit peu dans le contexte.
Mmh. Alors moi effectivement avec donc mon mari Charles. On est passé par un parcours PMA, puisque on s'est rendu compte que pour les essais bébés, ça prenait un peu de temps. Donc on s'est retrouvé en parcours d'insémination puis de FIV. Ça remonte à 2016, avec mm-hmm. Voilà toutes les batteries d'examen que mm-hmm. beaucoup de couples connaissent. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est le souci entre guillemets venait plus de moi, un souci d'hormones et un souci de trompe qu'on dit trompe pincée parce qu'elle n'est pas totalement bouchée. Bouchée, c'est beaucoup plus problématique. Et donc en fait, ça rend un cycle sur deux potentiellement pas forcément positif, quoi.
D'entrée de jeu.
Voilà. Ouais. Donc j'avais fait notamment l'examen tant redouté de l'hystérosalpingographie mm-hmm. Qui a permis de voir cela. Donc c'est vrai qu'on s'est lancé donc dans la PMA, dans la région parisienne.
Je voulais juste te demander au bout de combien de temps est-ce que vous avez eu recours à la PMA ?
Alors en fait après 2 ans d'essai à peu près, Et on est, en fait, on n'avait pas du tout pensé à la PMA, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est spontané comme ça.
Bien sûr.
Et en fait, c'est lors de mon examen donc de l'hystéro, où l'infirmière qui accompagnait le radiologue voyait bien que j'étais un peu désemparée, un peu à bout moralement, même si bon, l'examen est pas très agréable, mais c'était surtout le moral qui lâchait ce jour-là. Donc on a beaucoup discuté toutes les deux. Et c'est elle, en fait, qui m'a parlé de PMA. Ça a été un peu une révélation. Je savais ce que c'était. Hein. Mais voilà, elle a mis des mots sur les choses. Alors que ma propre gynéco, bon, à l'époque, ça n'inquiétait pas spécialement. Moi, au bout de 2 ans, bon, la patience et tout ça fait que bah, je commençais à m'inquiéter. Et donc, cette infirmière m'a parlé de la PMA parce qu'elle-même avait eu recours à 3 FIV qui avaient marché du premier coup. Et elle était enceinte de son 4e enfant de manière spontanée. Donc cette personne a été à l'origine.
Ah ouais, génial.
Ouais. Et puis et elle nous a vraiment donné confiance en la suite. Et donc le lendemain, donc c'était oui à peu près 2 ans environ après les débuts SCBB. Et donc le lendemain, on avait rendez-vous à la PMA de notre ville.
Ah ouais, d'accord. Donc rapide finalement.
nous on est comme
enfin,
ça.
Rapide. Ouais, voilà. Non, bah super.
Quand on met des mots sur les choses, on est rapide.
Ouais, c'est ça. Une fois que t'as identifié ce qu'il fallait faire, après t'es prête à. Enfin, vous étiez prêt à avancer.
Oui, tout à fait.
Donc, super.
On voulait juste mettre des mots sur les choses, en fait.
C'était ouais, ce qui est souvent le plus difficile. Non, c'est clair. Mm-hmm. Et je me retrouve, moi, personnellement, beaucoup dans ce que tu dis. Je savais aussi ce que c'était la PMA, mais j'avais jamais vraiment fait le lien, en fait, que c'est ce par quoi j'allais passer, alors que c'était assez évident, finalement.
Mais c'est ça. Je pense qu'il faut du temps et puis il faut les bonnes personnes en face.
C'est ça, exactement. C'est chouette que tu aies été bien accompagnée là-dessus.
Tout à fait.
Alors donc, du coup, donc vous lancez, vous avez votre premier rendez-vous, vous avez déjà fait les examens, donc du coup, on vous propose un protocole assez rapidement.
Oui, assez rapidement. On a juste attendu. Je crois que c'était un peu avant l'été. On a attendu l'été parce que généralement les PMA sont fermés 1 mois durant l'été. Et c'était pas plus mal aussi de prendre du recul sur tout ça et prendre un peu de temps pour nous avant
bien sûr.
Se lancer. Et on s'est lancé effectivement de tête, c'était un mois de septembre, donc ça correspondait à la rentrée. Donc on est parti sur, on a fait 2 protocoles pour des inséminations. Donc la première n'a pas fonctionné et la deuxième en fait a été stoppée parce que j'ai fait de l'hyperstimulation, pardon.
Ah,
on n'est pas allé jusqu'au bout du deuxième protocole et donc après la médecin qui nous suivait nous a proposé de passer en FIV. En FIV avec un protocole expérimental qui visait justement à réduire les risques d'hyperstimulation. Donc, en fait, ce protocole est dans les faits un peu plus lourd parce qu'il y a un peu plus de piqûres, il y a un peu plus de bleu sur les cuisses et le ventre.
Ouais.
Mais au final, ça réduit les risques d'hyperstimulation et la preuve en est, j'en ai pas fait pour cette FIV et qui a marché du premier coup puisque ça nous a donné Léo.
Génial. Et alors, bon, donc c'est super. Donc du coup, en 3 cycles au total, c'est ça ?
En 3 cycles, tout à fait.
Ouais, d'accord. On vous a imposé une petite pause entre les cycles ou vous avez pu avancer relativement rapidement ?
Alors oui, on nous a imposé une pause après les 2 inséminations, même s'il y en a une qui n'est pas allée jusqu'au bout. Mais c'est vrai que comme on en a fait 2 d'affilée, et que j'avais quand même eu toutes les piqûres, tous les comprimés, etc. La médecin préférait qu'on fasse une pause. En plus, arrivaient les fêtes de fin d'année, donc bon, c'était en soi, voilà, un peu symbolique d'attendre l'année suivante. Et ça nous a permis aussi de partir en vacances, de se retrouver un peu tous les deux, de réfléchir à tout ça et de s'imaginer dans une perspective de FIV qui est quand même différente d'une insémination. Donc, c'était pas plus mal.
Ouais. D'accord. Bon, super. Donc, du coup, vous apprenez que la première FIV a marché. Comment se passe, du coup, ta grossesse? Est-ce que c'était une grossesse particulièrement suivie parce que tu étais tombée enceinte suite à un protocole expérimental ou finalement c'est une grossesse assez classique sans grandes complications?
Alors, en fait, je dirais que c'était, au début, c'était quand même suivi parce que en PMA, on a très rapidement une première échographie. D'ailleurs que j'ai fait dans les locaux de la PMA, c'était assez rigolo, voilà, et symbolique d'y retourner en ayant un petit œuf accroché.
Bah oui, bien sûr.
Et d'ailleurs en fait on avait mis 2 embryons, donc il y en avait il y a un des deux qui a tenu. Ça nous a pas particulièrement affecté. C'est vrai que voilà, on s'est dit c'est comme ça. Il y en a un, c'est déjà merveilleux. Ouais. Et puis après, je dirais que la grossesse était plus précieuse parce que issue d'une PMA, mais j'ai pas eu de complications particulières, quelques petites visites pour se rassurer aux urgences, mais voilà, c'était quand même une grossesse relativement parfaite.
Bon, bah, tant mieux, super. Et alors donc du coup, petit Léo fait son arrivée, donc 9 mois plus tard.
Tout à fait. Un tout petit peu moins de 9 mois parce qu'il est arrivé 11 jours en avance. Donc là, on était en novembre 2017. Ouais. Donc voilà, 16 heures de travail certes, mais un accouchement nickel, tout s'est très bien passé. On avait fait le choix que j'accouche dans l'hôpital où j'avais été suivie en PMA. Un peu pour boucler la boucle, toujours
Bien sûr.
Sur les petits symboles qu'on aime tant. donc voilà, tout s'est très très bien passé. Léo est arrivé sans complications.
Non, super. Un petit bout de chou en pleine forme. Très bien. Avant de parler de Léo plus en détail, je voulais juste te demander du coup là sur ce parcours de PMA qui finalement le parcours pour devenir parent a pris un petit peu de temps, mais finalement le parcours de PMA c'est super chouette quoi. Vous avez pu être pris en charge très rapidement, ça a été rapide, je mets ça avec tous les guillemets bien sûr qu'il faut, parce que on aimerait toujours que ce soit beaucoup plus rapide et plus simple. Je me demandais juste si tu avais un conseil ou quelque chose que tu aurais aimé toi savoir avant de te lancer en PMA.
Déjà, je pense qu'effectivement, c'est d'être bien entouré. Nous, on a eu la chance d'être entouré d'une équipe formidable et du premier coup. Je sais que malheureusement, il y a des couples qui changent de PMA parce que le courant passe pas forcément. Et je pense qu'il faut pas hésiter justement à changer, même si sur le coup on se dit ça nous rajoute peut-être un peu de temps, mais c'est hyper important d'être bien entourée. Moi, je sais que tous les matins où j'y suis allée, j'étais positive à chaque fois parce que j'étais entourée d'infirmières au top qui avaient le sourire, qui croyaient, qui croyaient pour nous. Les gynécologues, pareil, les anesthésistes, enfin toutes les personnes du service, même les personnes à l'accueil, étaient vraiment positives. Donc, on l'était aussi, et il faut vraiment, même si c'est pas tous les jours évident, mais il faut vraiment se dire qu'au bout, et nous c'est ce qu'on se disait, au bout de tout ça, peu importe le temps, peu importe les piqûres, etc., peu importe les larmes versées, au bout, il y aurait un bébé. Nous, on s'est toujours dit ça, que tout ça nous amènerait un bébé.
C'est génial, vous avez jamais douté du coup, enfin vous êtes partie en mode très positif sur...
On s'était dit que voilà, à partir du moment où on avait une explication déjà médicale en ce qui me concernait, la chance aussi que du côté de Charles tout soit bon, c'est vrai que c'est positif et c'est encourageant aussi. Et puis on s'était dit bon, c'est un coup dur effectivement la PMA parce que c'est pas aussi spontané qu'on voudrait, c'est pas aussi naturel qu'on voudrait dans un couple, dans une vie. Mais d'un côté, on va être très bien entouré avec une bonne équipe qui va nous aider à régler les 2-3 petits soucis qu'il y a et puis bébé il y aura.
C'est super d'avoir cette mentalité, c'est top. Alors on va parler un petit peu de Léo aussi. On s'est connus justement puisque tu viens de sortir un livre où il sort cette semaine, je sais plus exactement, dis-moi, corrige-moi si je me trompe.
Il est sorti jeudi dernier. Ouais.
Le 6 février. Félicitations. Et justement, donc tu racontes en fait l'histoire de Léo et l'histoire de ta famille. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi tu parles dans ce livre ?
Oui, alors donc je parle de Léo, effectivement, comment on est arrivé à Léo, la vie de Léo et malheureusement la perte de Léo. Donc ça passe par la PMA, un peu le résumé de ce que je viens de faire, ma grossesse et puis aussi bien l'accouchement, les 4 mois et demi de bonheur qu'on a eu la chance d'avoir à ses côtés, pour résumer. Et je parle aussi beaucoup que ça nous tient à cœur de la prévention de la mort inattendue du nourrisson, parce que Léo a été victime de cela.
D'accord, ok. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors en fait, Léo a été retrouvé en arrêt respiratoire chez l'assistante maternelle. C'était le jour de ses 4 mois et 2 semaines. Et donc après analyse, autopsie, etc., on a découvert que donc il a été victime d'une mort inattendue du nourrisson, donc pas une mort subie du nourrisson. J'explique la différence entre les deux parce que c'est vrai que on parle très rapidement et très souvent de mort subite du nourrisson.
C'est vrai.
Et c'est vrai, moi, la première, c'est les termes que j'utilisais. Et je pense que c'est important d'expliquer qu'en fait, la mort inattendue du nourrisson de manière générale, c'est le décès brutal d'un enfant qui a moins de 2 ans et qui, a priori, était en bonne santé. Ça veut dire que jusqu'au jour de son décès, il n'y avait absolument rien qui laissait présager quoi que ce soit en amont. Et en fait, on va retrouver 3 cas possibles, si je puis dire, dans la mort inattendue du nourrisson. Il y a ce qu'on va appeler les morts expliquées. Donc là, ça va être par des facteurs à risque assez précis. Par exemple, le tabagisme des parents, de la maman pendant la grossesse, ça peut être de l'hyperthermie. Ou alors des pathologies, mais des pathologies qui n'étaient pas forcément développées ou visibles, et malheureusement qu'on découvre généralement à l'autopsie. Ensuite, le deuxième cas, ça va être les morts qu'on va appeler accidentelles, donc c'est les morts qui auraient pu être évitées. Généralement, elles sont liées aux conditions de couchage qui n'est pas respectées, et c'est ce qui était le cas pour Léo, puisque les conditions de couchage étaient plutôt inexistantes, en tout cas celles qu'il faut respecter, notamment la position, puisque Léo avait été mis sur le ventre, alors qu'un maintenant aujourd'hui on sait qu'un bébé il dort sur le dos et d'autres de conditions qui ont fait que il a été victime d'une asphyxie. D'accord. Et en fait il y a un troisième cas qui s'appelle donc la fameuse mort subite du nourrisson. Et ça en fait c'est quand un bébé qui est décédé après tous les examens et même l'autopsie, son décès reste inexpliqué. Et ça représente environ 20% de la mort inattendue du nourrisson de manière
globale. Ah ouais. C'est beaucoup. Ouais. D'accord.
Ouais.
OK. Bon, très bien. Alors du coup je j'ose bien sûr pas imaginer ce par quoi vous êtes passé. Tu peux nous raconter un petit peu justement comment est-ce que avec ton mari, est-ce que vous vous êtes fait accompagner, comment ça s'est passé après tout ça, après le départ de Léo?
Alors oui, on s'est fait accompagner tout de suite, immédiatement, puisque quand on est arrivé avec le SAMU pédiatrique à l'hôpital, déjà on est allé dans ce qu'on appelle un centre de référence de la mort inattendue du nourrisson. Donc il y en a plusieurs en France. Donc on a été prise en charge par la psychologue et par l'un des médecins référents du service de réanimation néonatale. Et donc, et depuis ce jour-là, moi je suis toujours par exemple suivie par la même psychologue. Donc on a été prise en charge, Charles a été aussi suivi par elle. Toute cette journée horrible, ils nous ont pas lâchés. Ils nous ont expliqué les étapes, la suite, même si c'est beaucoup d'informations qu'on n'arrive pas à assimiler à ce moment-là. C'est quand même important de les avoir. Et on a été, encore une fois, on a eu la chance d'être très bien entourés par tout le service, toutes les personnes qui sont occupées de Léo. Quand on arrivait sur les lieux, Léo nous avait déjà quittés, mais voilà, il fallait quand même être auprès de lui pour faire les examens. Et tout le monde a été d'une bienveillance remarquable. Et on est toujours très bien entourés par nos familles et par nos amis. C'est primordial. Je pense d'être bien entourée, même s'il faut aussi savoir penser à soi et garder des moments pour soi. On a le droit de pas vouloir être accompagnée. C'est le choix que, par exemple, Charles a fait après quelques semaines de suivi. Moi, je le fais toujours aujourd'hui, mais c'est pas forcément régulier. C'est un peu quand j'en ressens le besoin. Mais en tout cas, faut vraiment s'écouter et faut vraiment faire ce que notre petit cœur nous dit. Et des fois, quitte à mettre un peu des œillères sur ce qu'on peut entendre autour. Donc, faut trouver un peu la balance entre tout ça.
Ouais.
C'est pas évident, mais je pense que nos bébés, même quand ils sont plus là, bah ils restent nos bébés et qu'on reste des parents et que ça peut nous porter même après la mort.
Bien sûr, chapeau. Comment est-ce que justement tu dis c'est important aussi de garder des moments pour soi. Et j'imagine qu'aussi en couple ça doit pas être facile de se reconstruire en tant que couple après tout ça. Vous avez testé différentes choses. Par quoi est-ce que vous êtes passé, si je peux me permettre la question?
Oui, je t'en prie. C'est pas évident parce que le choc, le traumatisme, tout ça. Et puis, on s'est retrouvés, on avait déjà vécu l'épreuve de la PMA, on s'était un peu dit que bon, ça serait l'épreuve, un peu l'épreuve de notre vie, si je puis dire, entre guillemets. Et en fait, c'était l'épreuve de pleurer ce qu'on n'avait pas. Et là, en fait, on pleurait ce qu'on n'avait plus. Donc, ça faisait, encore un autre choc, et qui est évidemment infini. et qu'il faut assimiler. Et en fait, on se rend compte que bah, on a beau être amoureux, on a beau être très, très proche, on a beau avoir vécu l'épreuve de la PMA main dans la main, on réagit tous différemment à un drame. Perdre un enfant, effectivement, c'est pas l'ordre des choses. Donc, même si tout deuil fait mal, je suis pas du tout dans la comparaison, et j'en parle aussi beaucoup dans mon livre parce que je veux pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est dur avec le deuil d'un enfant, c'est que c'est le deuil de l'avenir. Donc oui, ça remet plein de choses en question. Et c'est pas forcément évident avec le couple, parce qu'on aimerait être aux mêmes phases au même moment. Et c'est pas le cas. Et en fait, il faut réaliser que heureusement qu'on n'est pas forcément toujours au même stade au même moment. Et en fait, nous, on s'est laissé un peu chacun trouver ces moments à soi. Par exemple, Charles a repris le travail plutôt que moi, et on a respecté chacun ça. Et après, chacun a trouvé un peu son exutoire. Charles a fait beaucoup de travaux parce qu'on a déménagé. Il a changé de travail. Moi, je me suis mis dans l'écriture. Chacun avait un peu son petit truc pour se défouler. Et puis, je suis en train de faire ma reconversion professionnelle. Je pense qu'on a mis vraiment un point d'honneur à respecter ça, tout en s'accordant des moments ensemble pour parler de Léo, pour parler de sa perte. Et puis des fois, voilà, encore une fois, j'insiste sur le respect. Bah, laissez l'autre s'il n'a pas envie d'en parler, ou si c'est pas une période où il se sent triste, ou alors où il se sent d'en parler.
Ouais, non, c'est vrai que c'est vachement important ce que tu dis. Je pense que chacun va à son rythme, même si on est en couple, on avance pas forcément à la même vitesse. D'accord. Et alors justement, le livre, et puis de manière générale, la prévention sur comment coucher bébé de manière safe, mais aussi voilà, la prévention sur la mort subite et la mort inattendue du nourrisson, c'est une mission un peu que vous vous êtes donnée tous les deux.
Oui, complètement, parce que c'est vrai que très rapidement, quand on s'est rendu compte, après les résultats de l'autopsie, et après, bien plus tard, mais on a eu le compte-rendu de l'audition de l'assistante maternelle, puisqu'elle a été auditionnée, et elle est aujourd'hui mise en examen pour homicide involontaire. Il y a une procédure judiciaire en cours, qui n'émane pas de nous, à la base, qui émane du parquet de la région où on était avant. Et nous, on s'est constitué partie civile. Et donc c'est vrai, quand on s'est rendu compte que ça aurait pu être évité, tout de suite, c'est Charles le premier, je me rappellerai toujours, au commissariat, qui a dit « Mais mon Dieu, il faut faire quelque chose, ça ne doit plus arriver, c'est pas possible. » Nous, on était, même si je peux pas dire qu'on espérait, parce qu'on espère rien quand on vient de perdre son enfant, mais que Léo se soit endormi tout seul, que son petit cœur, malheureusement, a arrêté de battre, et puis que voilà, il s'est endormi paisiblement, donc. Et en fait, bon, il s'est endormi paisiblement, c'était un malheureux, mais quand même soulagement pour nous, mais ça aurait pu être évité. Donc c'est vrai que ça nous est très rapidement apparu à la fois comme une injustice pour nous, mais en se disant, cette injustice, il faut qu'on en fasse quelque chose, et il faut qu'on fasse entendre nos voix d'une manière ou d'une autre, parce que je pense que c'est quand même encore super tabou. D'ailleurs, la preuve, moi j'avais beau être au courant de beaucoup de choses, et on faisait, je pense qu'on respectait quasiment tout ce qu'on préconise dans le couchage, mais par exemple, je ne savais absolument pas distinguer une mort subite d'une mort inattendue, enfin voilà, ce genre de choses peut porter à confusion. Et en fait, en France, il n'y a pas eu de campagne depuis 20 ans à peu près sur ça, donc c'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est pas qu'on veut mal faire, c'est pas que les parents font mal, c'est qu'ils ne savent pas. Et pour nous, c'est important de transmettre, que ça soit aux parents, même aux professionnels, les bonnes conditions de couchage.
Oui, effectivement, tu parles beaucoup de ces méthodes de conditions de couchage en toute sécurité. Est-ce que tu peux les rappeler, du coup, autant qu'on les sache?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, dans les conditions de couchage qui sont à respecter, qui sont même réglementaires, donc il y a la position de bébé. Donc, bébé, il dort sur le dos et à plat. On ne fait plus dormir bébé sur le ventre, même si effectivement, du temps de nos mamans, grand-mères, etc., on le faisait beaucoup quand bébé avait des coliques. Mais maintenant, bébé, on le sait, c'est prouvé, c'est factuel. Bébé, il dort sur le dos, à plat, dans son propre lit. Donc c'est pareil, ça peut être un peu source de débat, mais on peut quand même faire du cododo avec les lits qu'on met juste à côté de notre lit de parents. avec ce qu'on appelle une barrière de sécurité qu'on peut baisser quand nous, on est éveillé et qu'on a envie de, voilà, de profiter de notre bébé, de lui faire des bisous et de l'admirer. Par contre, quand papa et maman vont se coucher, on lève la barrière. Pourquoi ? Parce que dans le lit de bébé, il faut qu'il n'y ait rien qui puisse obstruer sa respiration. Donc, on ne met pas de cours-de-lit, on ne met pas de doudou, de couverture et toutes sortes de choses qui peuvent altérer sa respiration. Et bébé, il faut qu'il dorme donc dans une turbulette, dans une gigoteuse qui est à sa taille, et comme ça il est libre de ses mouvements, et encore une fois il n'y a rien qui peut arriver jusqu'à son petit nez. Et aussi ce qui est très important, c'est de vérifier la température de la pièce. On conseille de coucher bébé dans une température entre 18 et 20 degrés.
D'accord, ok, bah merci beaucoup d'avoir rappelé ça. Deux questions du coup qui me viennent à l'esprit. Ces conditions de couchage, du coup c'est jusqu'à quel âge ? C'est la première année, non, c'est ça, ou...
Alors maintenant, on étend jusqu'à un peu plus, puisque la mort inattendue déjà concerne les enfants jusqu'à 2 ans.
D'accord.
Donc c'est beaucoup plus étendu. Ça peut paraître long, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui me questionnent là-dessus. Quand bébé sait se retourner tout seul, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Et puis bébé, il apprend à se retourner tout seul avant les 2 ans. Quand il se retourne tout seul, ce que généralement moi je dis, déjà je suis pas médecin, donc je demande toujours à ce que tout ce que je dis soit vérifié avec le pédiatre du bébé. Mais généralement, les médecins disent que quand bébé il se retourne, on le couche sur le dos et après il fait sa vie la nuit.
Ouais, c'est ce que mon médecin me disait aussi.
Voilà, exactement, parce qu'il a les muscles, en fait, il a développé la motricité et les muscles pour pouvoir se retourner. Mais néanmoins, on fait quand même attention. Et peut-être même d'autant plus, par exemple, au tour de lit, si bébé arrive à bouger tout seul dans son lit. Et en fait, pour les tours de lit, c'est vraiment tous les tours de lit. C'est même ceux qui sont plats, on pourrait dire, il n'y a pas de risque de confinement. Si, en fait, les tours de lit, c'est juste de la déco. Donc voilà, c'est pour ça que ça est étendu jusqu'à un peu plus maintenant, aux alentours des 2 ans. Parce que au-delà de la position du couchage qui est très très importante, quand bébé il bouge, faut faire attention à son environnement. Et même si on pourrait se dire là, mais ça me fend le cœur de savoir mon bébé sans doudou, sans tour de lit, tout moelleux, trop mignon autour de lui, lui il est très très bien comme ça, il dort très bien à plat sur un matelas. Et puis ça me fait penser aussi, quand je parle des matelas, au lit parapluie. Le lit parapluie, il faut que ça reste temporaire, on va dormir chez des amis, chez les grands-parents, et il faut surtout pas de rajouter un matelas, toujours avec l'état d'esprit, si jamais on se dit il va être mal, parce que ce qu'on appelle la galette, c'est tout fin, il va pas être confort notre bébé, si le bébé il est très confort, parce que déjà il est léger, donc c'est pas comme nous, on a besoin adulte d'avoir un matelas sympa, et puis il dort très bien comme ça, donc faut surtout pas rajouter de matelas, parce que le bébé peut se coincer entre les deux matelas, et encore une fois, se retrouver dans ce qu'on appelle un circuit fermé de respiration, et ce qui peut amener à des drames, malheureusement.
D'accord, ok. Non, merci de préciser tout ça. Et quand tu dis que c'est réglementaire, comment ça, c'est réglementaire ?
Alors, réglementaire, oui, c'est peut-être, quand j'utilise ça, c'est peut-être plus avec les professionnels, où effectivement, les professionnels doivent respecter ça. Tout ce que je viens de citer, que ce soit en crèche, les assistantes maternelles, le monde médical de manière générale. Après, en tant que parent, moi, je transmets la formation. Chacun, après, applique ou pas, fait ce qu'il veut avec ses enfants selon ce qu'il ressent. Je veux pas.
Bien sûr.
Que c'est pas en imposant qu'on peut entendre la prévention. Mais effectivement, tu as raison. Le côté réglementaire est plus orienté pour les professionnels.
Ouais, d'accord. Non, mais du coup, c'est aussi intéressant. C'est vrai que on peut aussi du coup poser des questions aussi, en fait, aux professionnels qui s'occupent de nos enfants, que ce soit à la crèche, à nounou, etc. Ils sont censés avoir cette base de connaissances.
Oui, tout à fait. Avoir les bases et pouvoir les transmettre également et les appliquer. Tout à fait.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir un bon rappel ici.
Plaisir.
Donc du coup, c'est comme ça donc que l'idée aussi du livre, j'imagine, est venue. Quels sont les autres moyens, en fait, j'ai de penser un petit peu à voix haute pour diffuser, en fait, justement ce message aux nouveaux parents. Alors peut-être que du coup, ce podcast pourra y contribuer aussi.
Merci, c'est gentil. C'est vrai que moi, je me suis rapidement mis à écrire sur un blog. Dans un premier temps, c'était purement, entre guillemets, personnel, un peu égoïste, entre guillemets, parce que ça me faisait du bien, j'avais envie de parler de mon fils, j'avais envie de continuer de le faire vivre, et donc, voilà, ça a commencé comme ça. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'évoquais pas mal de fois de manière spontanée la prévention, je faisais même des articles dédiés à ça, et puis je m'intéressais beaucoup. J'avais besoin d'avoir des connaissances là-dessus parce que j'avais besoin d'expliquer déjà autour de moi ce que c'était, parce que ça fait quand même partie de ma vie et que j'aime bien mettre des bons mots sur les bonnes choses, et je voulais surtout pas me tromper et je voulais surtout pas communiquer de fausses informations. Et donc voilà, je me suis renseignée notamment auprès de l'association Naître et Vivre, dont je suis membre aujourd'hui, et j'en suis très fière, et qui est une des associations, en France, qui s'occupe de l'accompagnement notamment des parents endeuillés, mais qui travaille aussi dans la recherche par rapport à la mort inattendue du nourrisson, et dans la prévention. Donc j'ai voilà, dès que j'ai des besoins d'informations, je leur demande, entre autres. Et donc voilà, tout ça a commencé avec ce besoin personnel, mais qui s'est vite étendu à il faut partager. Et en fait, à force d'écrire mes articles, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur mon blog, sont arrivés dans les oreilles d'une journaliste, j'aime bien dire ma petite fée de journaliste, parce que je l'ai rencontrée, elle s'appelle Sarah, et c'est elle qui m'a proposé la lecture en fait de mon blog, de pourquoi pas écrire un livre. Moi, j'avais commencé un peu à l'écrire dans mon coin, mais encore une fois, toute seule, pour moi, pour me faire du bien. Et elle m'a proposé de rencontrer sa maison d'édition. Donc, j'ai accepté en me disant, bah voilà, on veut parler de Léo, on veut parler de la prévention, ouais. Donc c'est le moment.
Génial.
Voilà.
Génial, ok. Et donc, c'est comme ça que le livre a vu le jour il y a juste pile une semaine, quoi.
Oui, c'est ça. J'avais commencé à écrire donc dans mon petit coin mes petites pages de livres. Je m'étais dit bon, je le ferais peut-être lire à Charles ou à ma maman. Puis voilà. Et en fait, quand j'ai rencontré Sarah, tout est allé très très vite puisque j'ai rencontré la maison d'édition l'été dernier. Et donc le livre est sorti en février. Donc effectivement, ça s'est très bien enchaîné. Et puis parce que je pense qu'on est beaucoup aussi à réaliser que c'est un sujet tabou. Ouais. Il y en a énormément, mais il en fait partie. Et que c'est, voilà, c'est important d'en parler. Et
ouais,
puis
c'est
super
important.
Communiquer. Ouais. Moi, ouais, je pense que... Et je m'en rends compte sur les réseaux sociaux. Je vois le nombre de parents, de mamans surtout, qui viennent me voir pour me poser des questions. Parce que des fois, il y en a qui culpabilisent en se disant « Ah, mais j'ai vu... ton article, ta story, c'est pas du tout ce que je faisais. » Et donc moi, j'explique, mais il n'y a pas à culpabiliser, en fait. On n'est pas des mauvais parents. C'est juste que quand on ne sait pas, on ne peut pas forcément appliquer quelque chose qu'on ne sait pas. Et donc, c'est là le travail de prévention, c'est là qu'il devient très, très important. Et je suis ravie, en tout cas, moi, des retours que j'ai, parce que je trouve que les gens sont plutôt ouverts, finalement, et se braquent pas spécialement et prennent en compte les règles de couchage, notamment. Donc... je trouve que le message de Léo jusque-là passe, en tout cas commence à bien passer.
Bah c'est génial, c'est que c'est bien que les gens soient prêts à l'écouter, prêts à apprendre en fait, c'est ça. C'est super. Et alors si je peux me permettre une question, est-ce que vous avez pensé rapidement ou pas rapidement, enfin j'ai aucune notion sans être indélicate, mais à retenter d'agrandir la famille, en fait, de faire un petit frère ou une petite sœur à Léo?
Bah en fait, déjà de base, on a toujours dit qu'on voulait plusieurs enfants, qu'on voulait voilà une famille nombreuse, et c'est vrai que quand Léo est décédé, de manière vraiment spontanée, je pense dans un réflexe de survie, déjà on les derniers instants qu'on avait avec lui, on lui disait mais t'inquiète pas, papa et maman, ils vont aller bien, et puis de toute façon, on te promet que tu seras grand frère un jour. Donc ça, et je pense que beaucoup de parents fonctionnent comme ça, parce que l'instinct de survie fait qu'il faut tout de suite se projeter dans du positif. Après, effectivement, nous, on s'est rendu compte que peut-être un peu trop vite, et c'est là où ça nous a fait sur le coup du mal, mais après coup, en y réfléchissant, du bien d'être accompagné dans un centre de PMA, parce qu'on nous a un peu freiné dans notre élan. Et sur l'instant, encore une fois, c'est une injustice, parce que si on pouvait faire comme tout le monde naturellement, on aurait fait comme tout le monde, voilà. Sauf que comme c'est passé par la PMA, donc on nous a un peu freiné. Et avec du recul, en fait, j'ai réalisé, en tout cas pour nous, parce que chaque parent est différent, mais que ça nous avait fait du bien et que vivre la première année sans autre grossesse en route, moi, je pense que ça nous a beaucoup aidé psychologiquement. Et la preuve en est, je suis quand même tombée, donc là, je suis enceinte, et je suis tombée enceinte naturellement. Donc, je me dis, je pense que j'avais beaucoup, beaucoup de chemin à faire dans ma tête. Ouais. C'est pas la solution à tout, on sait pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, pour notre cas, je suis persuadée que ça nous a fait du bien, donc on s'est laissé du temps, on a déménagé, on s'est marié, on a passé un été tranquille l'été dernier, et après, voilà, petit frère est en route.
Oh, félicitations, c'est super. T'es à combien de semaines de grossesse ?
Je rentre bientôt dans le troisième trimestre.
Ah, génial.
Deux semaines à peu près, ouais.
Génial. Ok, super. Très bien, eh ben, écoute, c'est super, et donc c'est chouette que vous n'ayez pas eu à avoir recours à la PMA. Enfin, c'est chouette. Tant mieux, quoi. C'est plus rapide et puis c'est quand même vachement moins douloureux.
c'est plus spontané, mais je pense qu'un jour, on y retournera parce qu'on a un petit embryon congelé. Voilà. On ne veut pas perdre, bien évidemment.
D'accord, ok. Bah oui, puis comme tu disais, vous vouliez avoir plusieurs enfants, 3-4 enfants, c'est ça que tu disais ?
Tout à fait, ouais.
Julie, du coup, je suis très contente pour vous que la suite se passe bien, en tout cas. C'est super. Enfin, je peux que te féliciter aussi, toi et Charles, et pour votre engagement justement sur la prévention de la mort inattendue du nourrisson. C'est clairement quelque chose qui est très nécessaire et voilà, moi, lors de mon prochain séjour en France, je regarderai justement pour trouver ton livre. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Comment est-ce que la communauté justement de Alors c'est pour bientôt peut vous aider dans votre mission actuellement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour vous aider?
Je pense que pour nous aider, il faut que les messages de prévention soient un maximum transmis, et donc ça peut être à l'échelle chacun avec sa propre famille, ses propres amis. Après, c'est du bouche à oreille et ça peut aller très vite. Après, à plus grandes échelles, n'hésitez pas à vous renseigner, à partager les informations de l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, Naître et Vivre. Et puis il y a pas que ça, il y a tous les centres de mort inattendue du nourrisson qui peuvent transmettre les centres de référence de mort inattendue du nourrisson qui transmettent les informations. Il y a d'autres associations, je pense notamment au Rire d'Anna qui est une maman qui a créé cette association après avoir perdu sa fille d'une mort inattendue du nourrisson également. Et puis ne pas arrêter la prévention, ne rien lâcher, parce que c'est vrai que des fois on peut se sentir pas forcément écouté, ou certaines personnes peuvent soit prendre ça à la légère, ou on peut avoir des réactions un peu peut-être des fois un peu brutales. Bah oui, mais moi j'ai jamais fait comme ça et tout s'est très bien passé, ou ma grand-mère a toujours fait comme ça et tout s'est toujours très bien passé. Et malheureusement, avoir en tête que il suffit d'une seule seconde. Des fois, il suffit d'une seule personne, une seule situation, et que moi je dis toujours, vaut mieux trop en faire dans la prévention que pas assez.
Bien sûr.
Et puis c'est quand même entre guillemets des gestes plutôt simples, donc partager tout ça et puis surtout ne rien imposer, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que des fois il y a des parents qui se sentent soit démunis, qui vont culpabiliser. Ou alors des discussions qui peuvent s'avérer peut-être un peu houleuses, mais il faut pas lâcher, parce que c'est hyper important et il en va de la sécurité de nos bébés à tous.
Ouais, bien sûr. Ok. Bah écoute, super, merci beaucoup. J'ajouterai les liens là vers les associations et les centres de référence dont tu parles dans les notes du podcast, comme ça on pourra les retrouver facilement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Eh bien, écoute, je pense de continuer sur cette lancée. Tous les deux avec Charles et notre famille, comme je dis souvent, entre terre et ciel, avec chaque petit membre. Et puis par rapport au livre. Voilà, moi je souhaite vraiment que l'histoire de Léléo soit lue, pas parce que j'ai envie de vendre pour vendre, mais parce que j'ai vraiment envie de parler de mon fils, parce que il était et il est génial, et je pense que voilà, sa petite vie mérite d'être lue.
Très bien. Eh ben, écoute, on regardera ça sans problème. Merci infiniment, Julie, d'avoir pris le temps.
Bah, merci à toi.
D'avoir pris le temps de raconter ton parcours, d'avoir partagé justement ces connaissances pour la prévention, en espérant que ça puisse aider et que ça puisse permettre vraiment de partager le message. Un grand merci. On te souhaite tout le meilleur. Une super fin de grossesse. Et puis, écoute, à très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup, beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Salut, c'est Alexis Buisson. Je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié, Joseph Bologne, ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.